L'heure du carillon. L'heure du carillon, c'est une émission chrétienne mensuelle qui aura lieu le samedi de 10h à 11h. Aujourd'hui, nous avons trois points principaux. Les objectifs de cette émission, la présentation des participants et enfin, comme à chaque émission, nous aurons une invitée. Aujourd'hui, c'est Sœur Brigitte. Donc, les objectifs, pourquoi une émission chrétienne tous les mois? Je distinguerai quatre raisons. Permettre le dialogue, aider à lire les événements locaux ou globaux, accueillir des témoignages et traiter des questions d'actualité et aussi approfondir des textes. Je m'explique. Permettre le dialogue entre croyants et au-delà. Les raisons sont faciles à comprendre. La messe dominicale permet certes de se rencontrer, mais c'est pas le lieu du débat. Le sermon du curé est fait pour commenter l'écriture, pas pour échanger des arguments. La radio, par contre, permet de s'asseoir à la table de quiconque. On a tous besoin d'écoute, d'accompagnement, voire de confrontation. Il faut sortir des espaces protégés, transgresser les frontières culturelles, je dirais même accepter de se laisser blesser par les arguments de l'autre. Pour cela, nous aurons toujours eu un ou une invitée. Nous pensons aux membres des associations qui font bouger les choses en ville, dans le milieu rural, dans le département et au-delà. Et je prendrai l'exemple de la Bible. On y trouve pas que des choses édifiantes dans la Bible, mais des colères, des guerres, toutes sortes d'affrontements. Donc, nous accepterons effectivement des points de vue divergents. Et ce sera le cas dès la prochaine émission, je crois, sur la fin de vie. La foi n'est pas un aérolithe tombé du ciel, elle se vit au cœur de l'histoire des hommes à partir de rencontres. Deuxième raison, aider à lire les événements. On est dans une période de mutation, un rythme très rapide qui déconcerte pas seulement les personnes âgées, mais un peu tout le monde. Et parfois, l'avenir fait peur. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'on est dans le syndrome du Titanic, où les gens faisaient la fête alors que le bateau s'apprêtait à couler. Ni, je me rappelle l'expression de Chirac, « la maison brûle et on regarde à côté ». Donc, on a besoin de repères. Et il y a tout au long de l'année des dates phares, dont souvent la signification est à revisiter. Je pense aux fêtes républicaines, par exemple le 1er mai, le 14 juillet, ou aux fêtes religieuses, Noël, Pâques, Pentecôte, Toussaint. Donc, nous expliquerons évidemment au fur et à mesure du temps toutes ces fêtes. C'est aussi, je trouve, une période de renouvellement de l'Église. Le Concile, il y a 50 ans, a fait bouger les choses, mais surtout, l'élection du pape François marque ce renouvellement. Je pourrais ajouter la transformation des paroisses. On a de moins en moins de curés et ce sont les laïcs qui prennent de plus en plus de place dans l'Église. Donc, face à tous ces changements, il faut démystifier les préjugés, les idées reçues, réorienter les besoins au niveau du quotidien, relier les préoccupations des uns et des autres pour développer le vivre ensemble, développer le lien social. Troisième point fondamental pour nous, accueillir des témoignages. Non seulement de la boutique chrétienne, je pense, bien sûr, on interviewera le père Bertrand Bobby, on interviewera le pasteur protestant, l'imam, aujourd'hui c'est sœur Brigitte, mais aussi, bien sûr, les responsables des mouvements et des services, le chef de la chorale, les organistes, le groupe biblique, les retraités, le milieu ouvrier, le milieu rural. Tout ça pour relier les sensibilités et les générations. Donc, au-delà du milieu chrétien, on s'adressera bien entendu à tous les milieux du Villefranchois, les milieux sportifs, culturels, sociaux, humanitaires, les syndicalistes, de façon à être en plein cœur des problèmes de la cité. Donc, parler des questions d'actualité qui font problème, il faudra bien s'y colter. La prochaine fois, donc, ce sera la fin de vie, l'euthanasie, mais aussi on parlera, je pense, un jour, de la place des femmes dans l'Église, de la montée des inégalités, du mariage pour tous, des problèmes de chômage, de l'islam, de l'insertion des jeunes dans le monde du travail. Enfin, dernier point, je dirais approfondir des textes et l'art sacré, les textes des écrivains et des savants face à Dieu. L'art sacré, ça peut être l'art roman, l'art baroque, les icônes, un peintre, etc. Voilà ces quatre points qui nous semblent fondamentaux dans cette émission mensuelle. Alors, les participants, on commence par Émilie Martin.
Bonjour, je m'appelle Émilie Martin, j'ai 51 ans. Je suis infirmière auprès des personnes âgées à l'hôpital de Villefranche. Je suis célibataire, je n'ai pas d'enfant. Alors, mes hobbies, c'est beaucoup la marche, la lecture, la musique et puis la rencontre avec, avec ma famille, mes amis. Mais j'aime aussi mes petits moments de solitude. Voilà, je suis investie dans de nombreuses associations et dans la paroisse de Villefranche. Voilà, voilà pour moi.
Michel Montbressus.
Michel Mambressos, donc j'habite Malleville. Excusez-moi, j'ai un petit problème de voix. Je suis marié avec Evelyne et nous avons donné vie à deux enfants, Léonèse et Gérald, qui eux-mêmes, enfin, Gérald a donné vie à deux de nos petits-enfants, Baptiste et Louis. Ils habitent l'île de la Réunion. Voilà, bon, nous sommes ici pour parler un petit peu de divers sujets.
Connaissez-vous la rose lune? Connaissez-vous la rose temps? L'autre ressemble autant à lune que dans le miroir de l'étang. L'une à l'autre se reflétant. Connaissez-vous la rose amère, faite de sel et de refus, celle qui fleurit sur la mer, entre le flux et le reflux, comme l'arc après qu'il a plu.
Donc je continue, Bernard Lauriac, retraité depuis 10 ans de l'enseignement public, professeur d'histoire-géographie. J'ai 71 ans, marié, 3 enfants, 7 petits-enfants, engagé dans le milieu associatif, à savoir l'Université des Savoirs Partagés, l'ASP12, c'est-à-dire l'Association pour les soins palliatifs de l'Aveyron. Je vais donc à la Chartreuse et à Rignac, au foyer des paralysés de France, au foyer Marie-Gouyenne. Et également à la paroisse, je fais quelques articles dans le Carillon, je participe à un groupe biblique et à l'ACI, c'est-à-dire l'Action catholique des milieux indépendants. Donc, pour tout vous dire, je suis plutôt orienté à gauche, CFDT et Parti socialiste. Je passe la parole à Didier Grandjou.
Voilà, donc je suis Didier Grandjou, prêtre à Villefranche. Je suis arrivé en début janvier pour seconder et alléger la tâche, si possible, du curé qui est Daniel, parce que maintenant nos territoires s'agrandissent. Et donc je fais en même temps d'autres petites choses, de la formation, des études. Donc je suis un gros mi-temps sur la paroisse et je suis très heureux d'être avec cette équipe pour avancer un petit peu. Alors j'entendais, et il ne les cache pas, les options politiques de Bernard, mais sachez que moi aussi j'en ai, mais comme je suis le prêtre de tous, je les garderai pour moi.
Merci Didier. On poursuit avec « Que serais-je sans toi ?»
Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre ? Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant ? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre ? Que serais-je sans toi que ce balbutiement ? J'ai tout appris de toi sur les choses humaines, et j'ai vu désormais le monde à ta façon. J'ai tout appris de toi, comme on boit aux fontaines, comme on lit dans le ciel les étoiles lointaines, comme aux passants qui chantent, on reprend sa chanson. J'ai tout appris de toi, jusqu'au sens du frisson. Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre? Que serais-je sans toi que ce balbutiement? J'ai tout appris de toi pour ce qui me concerne. Qu'il fait jour à midi, qu'un ciel peut être bleu, que le bonheur n'est pas un quinquet de taverne. Tu m'as pris par la main dans cet enfer moderne où l'homme ne sait plus ce que c'est qu'être deux. Tu m'as pris par la main comme un amant heureux. Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre. Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre. Que serais-je sans toi que ce balbutiement qui parle de bonheur a souvent les yeux tristes. N'est-ce pas un sanglot que la déconvenue? Une corde brisée au doigt du guitariste. Et pourtant je vous dis que le bonheur existe ailleurs que dans le rêve, ailleurs que dans les nues. Terre, terre, voici ces rades inconnues. Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre, que serais-je sans toi que ce balbutiement?
Nous sommes dans l'heure du carillon, une émission mensuelle, une émission chrétienne ouverte sur le monde. Nous allons, pour mieux présenter les participants, faire un petit jeu. Le petit jeu de « si c'était ». Si c'était une fleur, Émilie.
Oh, si j'étais une fleur, je serais une marguerite dans un champ de blé entouré de coquelicots.
Michel.
Mais moi, je serais une orchidée, qui est une fleur belle et sauvage.
Et moi, je serais plutôt une pensée, parce que les pensées, bien entendu, ça dure longtemps. Et je me rappelle un mot de mon père, quand il vendait des pensées sur le marché, il disait, c'est tant, sans compter les pensées qui les accompagnent. Et toi, Didier?
Et moi, si j'étais une fleur, je serais un oiseau de paradis. Et cette fleur, j'ai regardé sur Internet, ça s'appelle un strélisia de la reine.
Un livre, Émilie.
Un livre, je serais le petit traité de vie intérieure de Frédéric Lenoir. Un auteur que j'aime beaucoup.
Michel?
Mais moi j'en citerai deux. Les Confessions de Jean-Jacques Rousseau et La foi justifiée par la science, qui est un livre du docteur Marc Émilie aux éditions Ulysse.
Alors moi personnellement, j'aime bien les livres religieux et en particulier celui de Joseph Moin, Faire bouger l'Église catholique. Je crois qu'elle en a bien besoin. Didier Granjou?
Alors si j'étais un livre, ce serait, vous vous en douterez peut-être, la Bible. Mais la Bible, ça veut dire bibliothèque. Mais de fait, c'est une grande histoire d'amour, un grand poème, avec des parties un peu historiques, un peu poétiques, un peu de science-fiction, un peu de roman, il y a un peu de tout dans la Bible. Mais c'est l'expérience que des hommes ont pu faire de Dieu, et cette expérience-là, elle vaut pour nous aujourd'hui.
Nous passons à... une musique, Émilie.
Ah, une musique, c'est plutôt une chanson de Jean Ferrat. C'est beau, la vie.
Michel?
Et moi, je pense au classique. Ça me détend beaucoup. Bach, Wagner, etc.
Personnellement, moi, c'est plutôt les chansons de Brel et de Léo Ferré. C'est toute ma jeunesse. Didier Granjou?
Alors, si j'étais une musique, par rapport à ce que j'avais déjà exprimé, je change un petit peu. Parce que ces choses-là, c'est au moment où on les vit, quelle est la force de nos sentiments, et puis de ce que l'on connaît. Et aujourd'hui, comme musique, je dirais le Miserere d'Allegri, parce que c'est une très très belle musique, qui est pleine de paix, pleine d'espérance. Et comme je viens de conduire ma maman à sa dernière demeure sur la terre, pour qu'elle rejoigne le ciel, je trouve que ça va très bien.
Passons à une peinture, Émilie.
La création d'Adam de Michel-Ange. Vous savez, les deux mains qui se rejoignent sur la voûte de la chapelle Sixtine.
Michel?
Mais moi, je pense au tableau de Rembrandt, c'est-à-dire le retour de l'enfant prodigue.
Personnellement, un tableau de Rouault, les clowns, parce que nous sommes tous des pitres, finalement. Didier Granjou?
Alors, si j'étais une peinture, ce serait un tableau de Vassili Kandinsky, qui est la composition numéro 8. J'aime beaucoup ce mélange de couleurs et cette chose qui ne veut rien dire, mais qui porte à la beauté.
Dernier point, un lieu, Émilie?
Un petit coin de montagne en été, n'importe où.
Michel?
Mais moi, la campagne, je suis bien dans mon pays, ici, dans l'Aveyron. Les bois, la montagne, l'océan aussi, quand même.
Moi, j'avoue que c'est Conques qui m'intéresse le plus. J'ai amené mes élèves pour voir, pour leur expliquer le tympan et l'art roman. Et c'est un lieu magnifique qui, à mon avis, est un des plus beaux de l'Aveyron, parce qu'il y a l'art roman, mais aussi l'art moderne, avec les tableaux, avec les vitraux de Pierre Soulages. Alors Didier, si tu étais un lieu...
Eh bien, au risque de vous surprendre, mais pas vous qui me connaissez un peu, ce serait un terrain d'aviation.
Un terrain d'aviation? Mais pourquoi?
Alors, il faudrait peut-être un peu que je parle de ce que je suis, et du fait que je sois prêtre aujourd'hui, et aussi aviateur un petit peu. Quand j'étais gosse, il y a deux choses qui étaient le moteur de mon existence et qui restent. C'est la question de Dieu et la passion des avions. La question de Dieu m'a conduit à être prêtre, parce que, comme dit saint Augustin, tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas trouvé. Et donc, je suis encore un chercheur de Dieu, chercheur avec mes frères. Et puis, l'aviation, parce que, comme tous les gosses, j'ai aimé les avions, je me suis passionné. Très jeune, je suis rentré dans l'armée de l'air. Et donc, j'ai fait un petit bout de carrière dans l'armée de l'air. Et au moment d'entrer à l'école de Salon de Provence, pour continuer une carrière d'officier, j'ai quitté pour faire le séminaire. Mais... pendant quelques années, j'ai dû mettre les activités aériennes entre parenthèses. Et puis après, quand j'ai été prêtre, eh bien, de nouveau, j'ai piloté dans divers lieux, dans des aéroclubs. J'ai fait plusieurs choses comme ça avec mes brevets d'aviation. Mais à 60 ans, j'ai arrêté. Parce qu'il y a un temps pour tout, dit le livre de l'Ecclésiastique. Il y a un temps pour tout. Et puis, c'est vrai que notre planète n'a pas trop besoin de bruit et de fumée. Alors j'ai arrêté, je laisse ça aux autres. Mais je regarde encore les avions en l'air. Je vais encore sur les terrains et j'aime bien ça. Et puis, on est prêtre pour quoi? Pour le service de l'Évangile, c'est-à-dire d'une bonne nouvelle de joie. Et notre monde a bien besoin d'entendre des bonnes nouvelles de joie. Si l'heure de Carie, du Carie, on pouvait donner quelques bonnes nouvelles de joie et de questions du sens pour les gens, ce serait merveilleux.
Voilà, je crois qu'on a fini cette présentation. À toi, Michel.
Nous recevons aujourd'hui sœur Brigitte Domergue, qui est originaire de l'Aveyron. Elle est arrivée des Philippines. Elle va y retourner. Nous sommes heureux de vous accueillir.
Merci.
Alors présentez-vous, parlez-nous de vous, pardon.
Alors effectivement, je m'appelle sœur Brigitte. Je suis née en Aveyron, je suis aveyronnaise, de Flagnac. Tout le monde connaît Flagnac par son magnifique spectacle. J'ai passé ma vie religieuse, pas beaucoup en Aveyron, mais je suis restée 8 ans à Flavin, 11 ans à Carcassonne, 2 ans dans le Tarn-et-Garonne, et dernièrement j'étais à Caen, où j'ai passé 11 ans travaillant dans un foyer de jeunes travailleurs, parce que j'avais choisi d'être toujours travailleuse, professionnelle. Mais j'avais toujours des activités avec l'église, notamment le MRJC, la CE, et dans les dernières années, j'ai accompagné des équipes de vie chrétienne, des laïcs se retrouvant autour de la spiritualité ignatienne.
Je voudrais préciser peut-être le MRJC et la CE.
MRJC, c'est le mouvement rural de la jeunesse chrétienne. Et la CE, c'est l'action catholique des mouvements d'enfants.
Voilà. Bien, pourquoi avez-vous décidé de devenir religieuse? Ça peut paraître anachronique de nos jours. Quelle est votre mission?
Alors, il y a 30 ans que je suis religieuse parce que Émilie a 51 ans, mais moi, j'en ai 54. Donc, il y a 30 ans que je suis religieuse. C'est toute une histoire. Ma vocation est toute une histoire. À 20 ans... mes parents, ma famille est catholique. À 20 ans, le jour de mes 20 ans, maman a voulu qu'il y ait une messe dans la maison familiale parce que mes parents avaient une maison à louer et il y avait un prêtre qui passait les vacances là, comme je suis née en été. C'était l'opportunité d'avoir une messe dans la maison. Et lorsque le prêtre a lu la première lecture, c'était le texte d'Isaïe. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Isaïe, mais il est un texte d'Isaïe au chapitre 43 qui dit « Ton nom est gravé sur la paume de ma main, je t'aime et je ne t'oublierai jamais. » Et c'est Dieu qui parle. Ça m'avait tellement bouleversée que je suis partie 3 heures dans les champs pleurer parce que j'avais senti qu'il y avait quelque chose qui se passait en moi. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, j'ai suivi le chemin de ma vocation et j'ai erré un peu au début pour chercher où j'étais appelée. Et en fait, contrairement à ce que l'on pouvait supposer, J'étais en Aveyron, donc il y avait multitude de choix en vie religieuse, mais j'ai dû partir à Paris pour travailler dans les PTT, et c'est là que j'ai découvert la Sainte Famille de Villefranche-de-Rouergue. Comme quoi, Dieu a beaucoup d'humour.
Oui, et il est vrai qu'il est difficile de discerner un appel. C'est toujours très personnel. Enfin, le vôtre, il est beau. Quel rôle jouez-vous auprès des Philippins, qui, rappelons-le, sont catholiques pour 90% d'entre eux? Et comment communiquez-vous avec eux, puisque vous ne parlez pas leur langue?
Alors, je suis aux Philippines depuis 3 années. La congrégation m'a envoyée aux Philippines pour travailler dans un centre d'enfants de la rue. Nous sommes présentes, la Sainte Famille est présente aux Philippines depuis 10 ans. Et moi, je n'y suis que depuis 3 ans. Donc, évidemment, le choc culturel a été là, pour moi en tout cas, puisque je ne connais pas le Cebuano, qui est la langue parlée au centre des Philippines. Dans les Philippines, il y a plusieurs régions. Moi, nous habitons dans la région du centre. Alors effectivement, il y a 20 enfants dans la maison et je ne parle pas Cebuano. Donc c'est le langage du cœur, c'est l'anglais, c'est parfois un peu de français. Quand je ne sais pas le dire en anglais, je le dis en français, mais ils ne comprennent pas. Alors ça me simplifie la vie. Mais bon, on s'arrange, disons. Mais il est vrai que j'ai à apprendre le Cebuano. Alors je connais quelques mots, depuis 3 ans j'ai appris aussi quelques mots et je peux aller au marché sans problème, on me comprend.
Bon, avez-vous la conviction que la foi que vous éveillez et inculquez leur est utile? Chez nous, on pourrait penser que vous intervenez d'une manière excessive, puisque maintenant, on met beaucoup de barrages à tout ce qui est hors privé.
Il ne faut pas penser la foi comme on peut la penser en Europe. Les Philippins sont catholiques, comme vous l'avez mentionné. 90% des Philippins sont catholiques, vivent leur foi d'une manière pieuse, hein, au travers du rosaire, la récitation du rosaire. Le matin, quand vous allez à la messe, à 6h du matin, il y a des gens qui marchent pendant une demi-heure en allant à la messe, et ils récitent leur chapelet, ils récitent leur rosaire. Pour eux, la religion, c'est la récitation du chapelet, c'est la récitation des prières. Alors, éduquer à l'intériorité, c'est vrai que ça peut paraître dérisoire, mais il me semble que ça aussi constitue l'être humain. Ça peut aider à la construction des jeunes et de l'être humain. Comment peut-on se construire si on ne fait que réciter des prières? Il me semble qu'il y a un sens à donner à la vie qui peut être dans l'acceptation et dans l'éducation à l'intériorité. Cela prend beaucoup de temps et cela nous apprend la patience aussi. Parce que c'est une école de patience pour nous.
Très bien. Vous avez parlé d'intériorité. C'est vrai que l'intériorité, c'est quelque chose d'important. Comment occupez-vous vos journées? Est-ce que vous voulez bien nous donner l'exemple d'une journée type? Levé tôt peut-être, coucher tard?
Mon grand-père disait, la France ou la vie appartient aux personnes qui se lèvent tôt. En Asie, c'est la réalité, on se lève très tôt et on se couche très tard. On dort très peu parce que les nuits sont très chaudes. Alors, pour ma part, je me lève à 5h30 tous les matins. À 5h30, non, 4h30, pardon, j'ai une heure de retard déjà, c'est le décalage horaire sûrement. 4h30 tous les matins, 5h moins le quart, on ouvre les portes de la maison puisqu'il y a la cuisinière qui arrive, le veilleur de nuit qui part, le jardinier qui arrive, etc. 5h15, les enfants se lèvent puisque nous avons, comme je l'ai dit, 20 enfants dans la maison. Nous accompagnons les enfants dans le lever, ils ont des tâches ménagères à accomplir. Ils vont déjeuner à 6h15, 6h30, plus personne dans la maison puisqu'ils vont à l'école. Et nous, on rejoint la messe, l'église qui est à une demi-heure. Ensuite, nous avons le temps de prière personnelle et communautaire. Et après le petit déjeuner, nous vaquons à nos activités. Pour ma part, c'est aller acheter le riz, aller pourvoir le nécessaire pour le repas des enfants, pour la communauté, etc. Mais aussi, parfois, selon les jours, il y a aussi la visite aux écoles, puisque l'éducation est un peu différente aux Philippines. Nous allons payer la scolarité directement aux professeurs. Donc, c'est un long temps de travail, ça. Arrive le temps de midi où nous allons apporter le repas directement dans les écoles pour les élèves que nous suivons. Un après-midi, après un petit moment de sieste, parce qu'il fait très chaud, on est déjà à 35 degrés à 1h de l'après-midi, donc c'est le temps de la sieste et du repos. Ensuite, vers 3h, nous accueillons des familles qui viennent pour nous partager un peu ce qu'elles vivent ou pour nous partager leurs soucis. Et ensuite, à 5 heures, les jeunes rentrent de l'école. Ceux qui sont en secondaire rentrent à 3h30, les primaires rentrent à 5h. Et là, c'est toute une batterie d'activités qui est à mettre en place, entre le goûter, le suivi des devoirs, donner les fournitures scolaires. Et à 19h, nous prenons le souper. Et ensuite, à 20h30, tous les enfants sont couchés. Et nous, nous travaillons, nous profitons de ce temps-là, qui est calme, pour faire nos activités personnelles, Internet, par exemple, bavarder et skyper avec notre famille, etc. Ou alors des dossiers administratifs.
Lors de la conférence de presse que vous avez animée, vous aviez parlé de stages de formation, de stages de massage.
Oui, nous travaillons avec les enfants, comme vous venez de l'entendre, mais aussi nous travaillons avec les familles. Nous avons un livelihood programme. Livelihood, ça veut dire permettre à des gens de gagner un peu plus pour subvenir à leurs besoins. Alors, nous travaillons avec des familles et en 3 ans, nous avons fait 3 stages. Nous avons offert 3 stages de formation, diplômante, entre guillemets, pour des jeunes femmes qui auraient le désir de s'autogérer. Nous avons fait un stage de manicure-pédicure, un stage de massage, Swedish massage, et un autre stage de récupération et de vannerie avec du papier journal. Et ces stages durent 1 semaine et permettent à des gens d'avoir un certificat de suivi et de formation qui leur permettent ensuite d'entrer dans la société et d'offrir certains services comme la manicure, pédicure, ce qui est très utile là-bas parce que nous vivons pieds nus et dans la poussière. Donc c'est très pratique d'avoir quelqu'un qui vous fait les ongles des pieds et des pains. Ensuite, le massage, c'est un service offert à des particuliers et puis la récupération de papier.
Très bien. Mais écoutez, Sœur Brigitte, vous allez dire aux auditeurs de CFM Radio 90.2, qu'est-ce que vous entendez par programme vocationnel?
Bien sûr, nous sommes aux Philippines aussi pour, je vais dire entre guillemets toujours, recruter. Parce qu'en France, en Europe, il y a un manque de vocation évident. Donc nous avons aussi besoin d'avoir des jeunes qui vont aussi prendre notre place. Alors l'Église des Philippines a été très ingénieuse pour demander aux congrégations étrangères, mais aussi aux congrégations autochtones, qui veulent avoir des vocations, de suivre 4 semaines de stage. 4 semaines de stage qui nous apprennent à mieux découvrir la culture et qui nous apprennent aussi à animer des week-ends pour des jeunes. Alors, comment on s'y prend? On danse, on commence par danser et chanter, parce qu'aux Philippines, vous ne pouvez pas commencer une réunion sans danser, chanter, prier. Et donc ça, c'est très agréable, parce que vous avez l'impression d'être en vacances. Donc c'est génial. Et ensuite, nous commençons les choses sérieuses, avec un petit temps d'échange autour de ce qu'est la vocation, autour aussi de ce qu'est la congrégation pour nous, la Sainte Famille, de partager un peu ce qu'est le charisme de la Sainte Famille, cette implantation dans tout milieu, notamment dans les milieux pauvres, avec une volonté d'aider les personnes et de recevoir d'elles aussi, parce que ça ne va pas que dans un sens. Et ensuite, nous interrogeons ces jeunes pour leur demander qui veut être religieux, religieuse. Et nous prenons des contacts et nous organisons des week-ends. Toujours avec le sourire, parce que les Philippins sont toujours souriants.
Oui, je vais rebondir là-dessus. Vous nous avez dit qu'ils étaient souriants, qu'ils avaient de l'humour et que finalement, ils paraissent satisfaits de leur vie malgré les difficultés qui sont les leurs. Le religieux rend-il heureux, sœur Brigitte?
Moi aussi, il ne rend pas heureux. En tout cas, il aide à vivre. Mais je pense qu'aux Philippines, tout concourt au sourire. Donc la vie n'est pas triste là-bas.
Nous avons des leçons à prendre.
Effectivement, il faut être heureux dans la vie. Et sourire permet d'affronter la vie différemment. Donc souriez à la vie, et la vie vous sourira.
Je crois que tu as été contaminée, Brigitte, par leur sourire.
Peut-être, peut-être. Du moins, j'essaie en tout cas.
Ça fait du bien.
34% de la population aux Philippines a moins de 15 ans. Comment s'organise la scolarité des enfants? Je rappelle que les Philippines comptent pas moins de 7000 îles, ce qui nécessite une organisation particulière.
Alors quand on arrive aux Philippines, ce qui est impressionnant, c'est de sentir qu'il n'y a pas d'unité nationale. Parce que vous arrivez dans une île, c'est une langue. Vous arrivez dans une autre, c'est un autre dialecte. Sur la même île, nous, nous sommes dans le Negros, il y a X et X dialectes. On va prendre l'avion, nous, nous parlons cebuano, à l'aéroport, on parle ilongo. Alors, imaginez. Donc, en fait, tout s'organise en fonction du district où vous habitez. Alors, l'école, bien évidemment, c'est une école gouvernementale qui, normalement, devrait parler anglais. Mais chez nous, les instituteurs parlent cebuano. Et l'anglais, ils comprennent parce qu'ils ne communiquent avec nous qu'en anglais. Moi, je ne communique pas en cebuano, donc. Mais ils ont du mal à comprendre l'anglais. Donc, tout s'organise, mais différemment.
Voilà. Parlez-nous de leur habitat. Parlez-nous de ce qu'ils cultivent, de comment ils vivent là-bas. Et la famine, la malnutrition, sont-elles un problème ou pas, tout au moins dans la région où vous vous trouvez? Par ailleurs, tout simplement, combien gagne un travailleur philippin?
Je voudrais juste ajouter par rapport à l'école, la question précédente, que, en fait, l'école est peu chère. La scolarité est peu chère. Ce qui est excessivement cher, c'est tout ce qui tourne autour. Parce qu'en France, vous payez la scolarité, mais vous ne payez pas l'air conditionné, vous ne payez pas le chauffage, vous ne payez pas le security guard, vous ne payez pas l'entrée aux toilettes, vous ne payez pas l'entretien des toilettes, vous ne payez rien. Or, là-bas, tout est payant. Donc, ce qui ne permet pas aux familles de scolariser les enfants. Actuellement, 92% des enfants sont scolarisés. Ils sont scolarisés grâce au sponsoring. C'est-à-dire que, pour ce qui nous concerne, nous sponsorisons 150 enfants pour aller à l'école, avec l'aide de 3 ONG. Mais s'il n'y avait pas ces sponsors extérieurs, beaucoup plus de Philippines n'accéderaient pas à la scolarité et donc à l'alphabétisation. Voilà, c'est seulement ce que je voulais ajouter.
Mais alors, on va parler de ma précédente question. Combien gagne un travailleur philippin?
Pour exemple, nous avons un jardinier, il gagne 4400 pesos par mois, ce qui représente à peu près une centaine d'euros. 80 à 100 euros. La maîtresse de maison, idem. L'assistante sociale, le double, donc 200 euros par mois. Ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes avec qui nous travaillons, les familles avec qui nous travaillons, gagnent à peu près 150 pesos par jour, soit 3 euros par jour. Un kilo de riz est 37 pesos. Vous en gagnez 150 ou 100. Vous avez une famille de 5 à 7 enfants. Vous mangez du riz 3 fois par jour. Faites le calcul. Mmh. Je suppose que les mamans qui nous écoutent savent combien il faut de riz pour 4 personnes. Combien de kilos de riz il faut pour nourrir une famille de 13 personnes. Donc vous faites le calcul. Lorsque vous avez 150 pesos, vous ne pouvez pas aller bien loin.
Et par exemple, un enseignant là-bas gagne combien par rapport à tous ces gens?
Ça va dépendre de son ancienneté, ça va dépendre s'il travaille dans l'éducation spécialisée ou dans l'éducation normale. S'il travaille dans l'éducation spécialisée, il va gagner cher. S'il travaille dans l'éducation normale, il gagnera en début de carrière peut-être 15 000 pesos jusqu'à 30 000 pesos.
D'accord. Alors l'habitat, comment est fait leur habitat?
Alors l'habitat est en bambou. L'habitat est fait de bambou pour les familles avec qui nous travaillons. Il y a des habitats en dur, en béton, comme ici, mais c'est souvent des familles qui ont des personnes à l'étranger. Et donc, c'est les personnes qui travaillent à l'étranger qui vont envoyer de l'argent et comme cela, ils peuvent payer une maison en dur. Les familles avec qui nous travaillons vivent dans des... Si on parlait espagnol, on dirait des favelas, des barangays, nous on dit, qui sont très, très serrés, maisons côte à côte, de bambou. Bois en tôle. Alors les maisons de bambou, au début elles sont en bambou, puis après elles deviennent en carton, puis après elles deviennent en sac de riz, parce que le vent, parce que les typhons, parce que la pluie a démoli une partie du bambou. On n'a plus d'argent pour acheter le bambou, donc on va mettre des tôles et on va s'arranger système D.
Ce sont des installations précaires.
Très précaires, ce qui fait que lorsqu'il y a un typhon qui arrive, évidemment, les maisons et les villages et les barangays sont détruits très vite. Surtout ceux qui sont proches de la mer. Parce que Les gens, il faut comprendre, lorsque vous habitez à la montagne, vous avez une maison qui va être en bambou, mais vous avez une demi-heure pour aller chercher de l'eau. Une demi-heure aller, une demi-heure retour. Pour l'aller, ça va parce que vous n'êtes pas chargé, mais quand vous revenez une demi-heure où il faut monter et grimper jusqu'à la maison avec 10 kilos ou 10 litres d'eau, c'est quand même un peu plus compliqué. Donc les gens préfèrent se rapprocher de la mer et des points d'eau. Ce qui veut dire que les bords de mer, les bords de rivière sont saturés de personnes. Un typhon passe, tout est balayé. Vous n'avez plus rien.
Et les assurances, là-bas, il n'y a pas.
Ah, il n'y a pas d'assurance. C'est pas leur problème, les assurances. On fait le jour
voilà. Et leur culture, que cultivent-ils?
Beaucoup de riz, bien sûr, puisque c'est l'aliment principal. Hein. On mange du riz matin, midi et soir. Beaucoup de riz, beaucoup de fruits comme les mangues, les bananes, de toutes sortes de bananes, des rouges, des vertes, des jaunes, des papayes, des ananas. Peu de pommes et d'oranges. Les pommes et les oranges sont aussi une pomme, une orange aussi chères qu'un kilo de riz.
Oui. Et concernant la santé, vous nous avez dit que vous nous avez entretenu lors de votre conférence de dengue, de tuberculose, de typhoïde. Qu'en est-il exactement?
En Afrique, vous avez la malaria, vous avez le paludisme. Aux Philippines, vous avez la dengue. La dengue, c'est un insecte qui vous pique le soir après 18 heures, parce qu'il fait nuit à 18 heures. Tous les soirs de 365 jours par an, à 18 heures, c'est nuit noire. Et les insectes commencent à se réveiller. Donc, ils nous piquent. Et au départ, c'est une grippe. C'est la forme d'une grippe. Et si vous êtes piqué une seconde fois, c'est la composition de votre sang qui s'en trouve perturbée. Et la troisième fois, ça devient plus grave, parce que là, il peut y avoir hémorragie. Donc, il vaut mieux ne pas se faire trop souvent piquer par l'insecte, hein, parce que, et il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de vaccin qui puisse éviter cela. La tuberculose, c'est souvent dû à la malnutrition, à la mauvaise hygiène, et aussi les conditions de vie qui sont pas évidentes, quoi.
Si vous permettez une question de prof d'histoire-géographie, on a une image très contrastée des Philippines. Il nous semble que c'est un pays à l'économie dynamique qui va faire bientôt partie des dragons des pays émergents. Pas encore.
Non, pas encore. Non.
Ah bon. Mais moi, j'ai lu qu'il y avait actuellement un climat social assez calme, une équipe compétente, mais aussi, image contrastée, pas mal de corruption, des assassinats de journalistes, des grandes familles qui tiennent le pays et qui se perpétuent. Et puis, dans l'île de Mindanao, ces problèmes avec les musulmans qui se révoltent. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire, donc, de cette image contrastée?
Vous évoquez beaucoup de sujets. Alors, image contrastée, évidemment, quand vous arrivez aux Philippines, de toute manière, c'est ce qui vous choque le plus. Vous avez les 4x4 super neuf qui arrive, et en même temps vous avez un vélo avec une cabine, un pédicab que l'on appelle, qui est là, donc c'est super contrasté. Vous avez également des favelas où vous avez des gens qui vivent sur des immondices, mais c'est vraiment impossible, l'odeur, tout, vous vous dites mais comment ils peuvent vivre là? Et à côté de là, 3 mètres plus loin, vous avez de super belles maisons, des super ascenseurs, voilà. Donc les Philippines sont un pays de contraste, c'est sûr. Mais après, on peut pas dire qu'il y ait une classe moyenne. La classe moyenne est en train d'advenir, je pense. Mais aujourd'hui, c'est des très riches ou des très pauvres. Voilà. Mais la pauvreté est flagrante, c'est clair. Ce sont des gens qui n'ont pas de travail. C'est une population jeune. Donc, il faut trouver du travail pour cette population jeune qui est nombreuse. Aussi, les salaires sont très bas. Donc, la croissance, évidemment, elle y est, mais elle n'est pas suffisante pour donner aux gens de survivre et de vivre moyennement. Voilà. Donc, c'est là le problème. Beaucoup de jeunes, il faut leur trouver du travail, donc les salaires sont très bas.
La corruption?
Ah, la corruption, c'est tout un poème, ça, la corruption. En France, vous avez de la corruption, mais vous ne la voyez pas. Nous, on la voit. En France, la corruption est cachée. Vous l'apprenez que quelques années plus tard.
Ah, c'est ça.
Mais aux Philippines, ça commence par l'école. Vous avez vu lors de la conférence des enfants qui allaient à l'école, le premier jour d'école, avec un balai. Voilà. La corruption, elle commence par là. Expliquez-moi, je l'ai déjà dit à la conférence et j'aime bien me reprendre cette image parce qu'elle est parlante. Vous avez 80 enfants dans une classe, vous avez le premier jour 80 balais. Expliquez-moi comment vous utilisez 80 balais en une année de classe. Donc les professeurs se servent et vont les vendre peut-être, ou en profiter en tout cas.
Dis-moi Brigitte, mais de quoi vous vivez? Quelles sont vos ressources pour les aider?
Alors, il y a deux choses. Il y a la communauté Sainte-Famille qui vit sur les fonds propres de la communauté. C'est la communauté Sainte-Famille de Villefranche qui va subvenir à nos besoins là-bas. Pour le centre d'enfants, ce sont trois ONG, et récemment une quatrième vient de s'ajouter, qui nous aident. Il y a une ONG qui sont les Enfants du Mékong, ONG française, qui sponsorise et parraine 25 à 30 enfants de chez nous, des Philippines, de San Carlos, du programme Balai San Nazareth. Deuxième ONG allemande, Springboard, qui finance la scolarité des secondaires, de 20 jeunes du secondaire. Une troisième ONG et fondation, ce sont des laïcs espagnols qui connaissent bien la congrégation et qui acceptent d'aider les missions de notre congrégation de la Sainte Famille de Villefranche-Rouergue. Et une nouvelle fondation vient d'arriver, qui est toujours espagnole, qui n'a rien à voir avec les Sœurs de la Sainte Famille, mais qui a voulu, après le typhon, aider les jeunes à être scolarisés. Parce que tout le monde sait que s'il n'y a pas la scolarisation, rien ne changera dans un pays. Il faut que les gens soient éduqués pour que les choses changent.
Et parmi les auditeurs, là, si quelqu'un voulait justement faire un geste, comment il doit procéder?
Alors, vous avez plusieurs solutions. Soit vous voulez parrainer un enfant, ce qui veut dire avoir un lien avec lui, un lien familial, on va dire. L'enfant va vous écrire 4 fois dans l'année, vous allez lui répondre et vous allez avoir des nouvelles de lui parce que vous voulez un petit peu l'adopter en quelque part. Parrainer un enfant des Philippines, vous vous adressez à Enfants du Mékong, c'est le site français, vous tapez sur votre chercheur de internet, Enfants du Mékong, et vous tomberez sur le site. Ils vous donneront la procédure à suivre. Vous pouvez verser 18 ou 30 euros selon vos possibilités. Mais il y a un lien qui se crée. Donc il y a cette solution-là, Enfants du Mékong, ou alors faire un don à la Sainte Famille. Vous aurez un reçu fiscal et ce don, vous le spécifiez que cet argent doit être attribué soit aux enfants, soit à la reconstruction des maisons, soit au fonctionnement de Balai San Nazareth. Balai San Nazareth, c'est le nom de notre maison qui veut dire maison de Nazareth.
Brigitte, nous approchons de la fin de notre émission sur CFM Radio. J'ai besoin de vous dire que vous paraissez rayonner la vie en plénitude. Vous êtes probablement pauvre d'argent, mais tellement riche de cœur. Êtes-vous vraiment heureuse, Brigitte?
Oui, bien sûr. Je n'aurais jamais cru aller si loin, mais bon, oui, je suis heureuse.
Est-ce que vous avez une petite note d'humour pour terminer cette rencontre?
Je voudrais juste reprendre une phrase de Monseigneur Tagli, qui est le cardinal
archevêque
de Manille. Oui. Merci beaucoup. Archevêque de Manille. Il dit, il y aura toujours des typhons, espérons qu'ils soient de moins en moins destructeurs, mais il n'est pas encore venu le typhon qui va détruire la foi des Philippins. Voilà pour ça. Mais je voulais vous dire encore une fois, souriez à la vie et la vie vous sourira. Les enfants, à chaque lettre qu'ils envoient à leur parrain ou à leur sponsor, mettent ça. Souriez à la vie.
Merci, merci très fort, Brigitte.
Merci à vous.
Brigitte.
Merci beaucoup.
Merci d'avoir accepté nos questions et d'avoir participé à cette rencontre.
Alors, je voudrais ajouter que la prochaine émission sera plus spécialisé dans les problèmes de fin de vie, c'est-à-dire les soins palliatifs, la loi Leonetti, le débat sur l'euthanasie. Donc nous ferons venir des gens avec des opinions tout à fait contradictoires là-dessus. Mais je crois que c'est une question d'actualité dont on va parler de plus en plus. Merci pour votre écoute.
Au revoir, bonne journée à tout le monde. À bientôt.
Dagan salamat, ce qui veut dire merci beaucoup. À bientôt.
Au revoir et vivez longtemps et heureux.
Alors, dans un mois, on vous attend sur les problèmes de fin de vie. Merci pour tout.